Voilà, le but de cette présentation, c'est de vous faire essayer Django. Si jamais vous êtes toujours dit, bon, ben, pourquoi pas, là, ça. Je vais essayer avec mes piètres talents en marketing et après un Afpiro qui s'est terminé assez tard, de quand même vous donner envie. Tout d'abord, il faut se poser la question, pourquoi l'essor des frameworks web actuellement? Alors que depuis des années, on avait des briques existantes qui étaient. Vous m'entendez bien là? Oui. On avait des briques existantes qui étaient toutes faites. Par exemple, Dotclear, il y a énormément d'applications qui sont faites et qui sont des packs tout faits. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin des frameworks web? Donc pour ça, faut être un peu confronté à la réalité. Je pense qu'il y a des projets, vous avez tous connu des projets qui débutent un peu comme ça. C'est-à-dire qu'un client vous demande juste un blog. Donc là, vous dites, bon, bah, les blogs, il y en a plein sur le marché. Je vais juste avoir à prendre un outil existant et puis je vais l'intégrer comme ça en une journée et ça sera plié. Le problème, c'est que. C'était juste une feinte. Bon. Donc le problème, c'est que le client revient la semaine d'après et puis vous dit, ah mais on a quelques produits et on aimerait les mettre dans la sidebar du blog pour que les gens puissent aller les voir. Donc en fait, il faudrait une galerie de produits derrière pour pouvoir visualiser tous les produits qu'on propose. Et puis en fait, la semaine d'après, il revient et dit, il faudrait du paiement en ligne. Comme ça, on pourrait vendre directement nos produits. Donc au final. Vous étiez parti d'une caravane et on vous a demandé un château. Et là, Dotclear ou n'importe quel outil de blog ne pourra jamais arriver à ça. Donc vous allez faire de la bidouille derrière. La bidouille, à quoi ça ressemble au final? C'est ça. Donc ça, c'est immaintenable. Surtout, ça pose beaucoup de problèmes de performance, de temps à développer. Souvent, en plus, les outils que vous allez prendre à la base sont pas forcés, enfin, sont pas faits pour ça, donc ça va être impossible à gérer. Donc ça, évidemment, c'est pas la solution. La bonne solution, c'est d'avoir une bonne caisse à outils, parce qu'avec une bonne caisse à outils, donc ça c'est framework web, vous allez pouvoir créer votre propre application, votre propre projet. En reprenant bien sûr de l'existant, parce qu'on ne recode pas toujours un blog à la base. Enfin, je prends l'exemple du blog qui est très mauvais, mais tout le monde sait ce dont je parle. Donc si pour un projet qui va être amené à évoluer, et tous les projets évoluent, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir une caisse à outils et de savoir comment fonctionne derrière chaque partie pour pouvoir la faire évoluer et pour pouvoir mieux estimer par exemple le temps que va prendre une nouvelle amélioration. Donc tout ça pour dire que vous allez pouvoir gagner en agilité grâce à un framework web. Et c'est le but premier d'un framework web, c'est ça, c'est de permettre d'avoir une grande évolutivité de votre application première. Donc il y a des cas où effectivement le projet ne va pas évoluer, vous allez mettre plus de temps à partir d'un framework web plutôt que de prendre un outil tout fait. Et encore, c'est à moitié vrai parce que les frameworks web ont des applications réutilisables. Donc, au final, vous allez mettre un petit peu plus de temps, mais ensuite, le gain que vous allez avoir après va être énorme par rapport à un outil déjà existant. Donc, maintenant que vous êtes tous convaincus de l'intérêt d'un framework web, pourquoi Django? Alors, Django, déjà, un argument qui est intéressant, c'est Pythonic. Bon, on l'a vu beaucoup de fois pendant ces conférences. Si on fait du Python, c'est pour avoir du beau code et pour faire surtout du Python. Moi, quand je vois des fichiers XML à paramétrer, désolé, mais justement, j'ai beaucoup de temps à louer aux questions à la fin pour discuter de tout ça. Moi, ce que j'aime, c'est faire du Python et pas forcément modifier des fichiers de conf. Voilà. C'est juste ce que j'avais à dire là-dessus. Et après, ce qui est intéressant aussi dans Django, c'est que ça reste assez simple pour pouvoir après lire le code. Une fois qu'on a un certain niveau, on peut aller lire le code de Django sans aucun problème. Il est bien documenté et il est pas compliqué. Il n'y a pas des millions d'héritages, donc tout se passe bien à ce niveau-là. Un autre argument, c'est qu'il est accessible. Donc, je vais prendre l'exemple d'hier, par exemple, sur Zop3. Désolé encore. Donc, hier, c'était. Pour apprendre, il fallait 2 semaines et un bon bouquin. Voilà. Elle me cherche là. Ça marche, ça marche. Ok. Donc, je disais au niveau de l'accessibilité, Django, si vraiment vous ne connaissez pas Python, vous prenez 3 heures, vous faites le tutoriel, vous allez arriver à un résultat, et c'est assez bien expliqué pour que vous compreniez ce qui se passe, les grands principes, et comment doit être architecturé le code, et comment vous allez pouvoir aller plus loin. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, la doc est vraiment géniale. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir plus rapidement comprendre Django. Donc, la barrière d'accès se situe très bas. Si jamais vous êtes vraiment intéressé par faire du web, je pense que c'est intéressant d'apprendre Django en premier, parce que ça permet d'arriver très vite à un résultat. Voilà. Alors, un autre point qui est important, c'est au niveau de la cohérence. Il y a deux approches, enfin deux grandes approches au niveau des frameworks web. Il y a l'approche un tout cohérent, c'est celle qui a été prise par Django. Et il y a une autre approche qui est une approche de glue, c'est-à-dire qu'on prend des composants existants, les meilleurs dans leur catégorie, et on met la glue autour pour faire un framework. Donc ça, c'est l'approche qui a plutôt été adoptée par Pylons ou TurboGears. D'ailleurs, je crois qu'ils vont merger. Ce que je trouve très intéressant dans l'approche cohérente, c'est que tout est centralisé. Bon, c'est aussi un défaut. Mais par exemple, si vous cherchez de la doc, vous avez un endroit où aller. Si vous posez une question, vous avez un endroit où aller. Si vous voulez savoir tout ce qui se passe sur ce sujet-là, il y a un endroit aussi. Et ça, ça permet de gagner énormément de temps. Parce que sur un framework de type glue, il va falloir d'abord identifier quel composant est concerné, puis s'adresser à la bonne mailing list ou aller lire la bonne doc sur le bon site. Vous switchez entre les docs, et vous n'avez pas forcément le temps de vous réhabituer à la façon dont est structurée une doc, parce que chacun a décidé de faire la doc comme il lui plaisait. Donc vraiment, l'intérêt de Django là-dedans, c'est au niveau de la documentation. Parce qu'ils ont une documentation qui est très bien faite et très cohérente. Donc pour un débutant, c'est capital ça. Bon, pas besoin de dire que le code non documenté est difficile à prendre en main. Alors maintenant, on va passer à un point qui est intéressant aussi. C'est, même si j'en ai déjà parlé, c'est au niveau de la rapidité de développement. C'est-à-dire qu'avec Django, vous allez pouvoir avoir des résultats très très rapidement. Pour faire un prototype, même pas en extreme programming, mais si vous êtes avec le client qui vous dit j'aimerais ça, 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 vous allez pouvoir lui faire presque à côté. Bon, ça dépend du projet bien sûr. Mais ça va aller très très vite. En tout cas au début. Après, tout le monde sait que les détails sont plus lents à mettre en place. Mais pour faire un prototype, pour voir si ça marche, pour pouvoir tester face à des utilisateurs ou autres très rapidement, Django est très bien fait pour ça. Alors, il y a autre chose qui est très intéressant, c'est au niveau de l'administration. Donc, il y a une interface d'administration qui est auto-générée. C'est-à-dire qu'à partir de vos modèles, bon, j'ai décidé de ne pas mettre de code, à partir de vos modèles en Python, il va y avoir une interface qui va être auto-générée et vous allez pouvoir y accéder. En plus, elle est sexy. Vous allez pouvoir y accéder et créer des objets, les modifier, supprimer un commentaire. Bon, là, c'est juste un exemple. Donc ça, c'est ce qui fait un peu la force de Django souvent, surtout quand on débute, parce que ça permet de voir tout de suite en live ce que donnent ces modèles et comment ça va se passer derrière pour mettre à jour. Cette interface, pour l'instant, elle est uniquement pour les administrateurs, donc c'est d'où le nom administration d'ailleurs. Mais à terme, il y a une nouvelle branche de Django qui a été faite pour qu'elle soit aussi accessible aux utilisateurs, avec une meilleure gestion justement des utilisateurs sur les accès à cette interface et surtout sur les types d'objets accessibles. Alors un mot sur la sécurité, parce que c'est quelque chose d'important quand on débute. Django par défaut échappe tout le HTML au niveau des templates, enfin des gabarits. Donc vous allez pas avoir, enfin au niveau de la sécurité, si on compare un peu à PHP, il y a pas mal de failles à ce niveau-là parce que on peut injecter du code, etc. Avec Django, vous êtes en tout cas au début, vous allez pas avoir ce problème-là. Parce que le caractère HTML va être échappé avant d'être affiché dans la page. Donc bien sûr, il y a des mécanismes pour faire l'inverse, mais quand on débute et qu'on a un peu peur parce que son appli, ben on connaît pas forcément toutes les possibilités en termes de sécurité. Bon, ça c'est mal. Mais par exemple, si vous faites une petite appli pour vous, vous allez avoir moins de problèmes à ce niveau-là parce que c'est déjà fait derrière pour vous. Bon, un mot aussi sur la simplicité. Bon, ça j'en ai déjà parlé, mais donc l'intérêt justement c'est de rester très simple. La philosophie justement, enfin quand on monte un projet, surtout quand il y en a déjà beaucoup d'existants, on se dit bon, quelle va être la bête noire? À quoi est-ce qu'on veut pas ressembler? Et donc là, en termes de choix, ils se sont dit, nous on veut rester simple. On veut que justement une application puisse être faite comme ça en une après-midi, pour un exemple. Pour pouvoir essayer de prototyper et après, bien sûr, rester simple, c'est bien pour prototyper, mais il faut absolument aussi que l'application puisse évoluer, tenir la charge, etc. Donc là, c'est juste pour vous motiver pour découvrir Django, mais après, il faut savoir, bah, j'en parlerai cet après-midi, que ça supporte aussi les montées en charge et ça peut aller beaucoup plus loin qu'une simple application de test. Donc enfin, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est la maturité, c'est-à-dire que le framework a maintenant quelques années derrière lui, donc ça permet d'avoir une communauté de développeurs qui après impacte sur tout le développement du framework, qui est très importante et c'est même si des fois bon, ils font des choix qui sont discutables, au final, ça donne un produit qui est très intéressant. Donc pour ça, j'ai pris les chiffres des slides de l'année dernière. C'est pas du tout pour montrer qui est la plus grosse ou quoi. C'est pour voir l'évolution sur une année du nombre d'utilisateurs et donc du nombre de contributeurs. Et donc, je pense que c'est assez révélateur de l'évolution du framework et de sa maturité. Donc bon, bah, faut regarder les chiffres. Oui, juste une précision. Hier, on regardait les eggs de Django sur le site. En fait, beaucoup de projets Django utilisent Google Code. Donc, il y a à la fois des applis qui sont réutilisables et à la fois des projets complets. Donc, c'est pour ça, là, il y en a 500. Bon, maintenant, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi peu de eggs Django. Et enfin, je pense que, enfin. Au niveau de la programmation, ce qui est intéressant, c'est la créativité. Le framework web, c'est vraiment juste un outil. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait avec. Donc ça, c'est un point qui est intéressant et qui est un atout de Django. C'est que c'est très rare que la créativité se trouve brimée par la complexité de l'outil qu'il y a derrière. Ou en se disant, ah ben ils ont fait ce choix, du coup je peux pas faire vraiment les choses telles que je le souhaite. Alors bien sûr, il y a certains choix qui ont été faits, donc mais il est possible de passer, enfin une fois qu'on connaît un peu le framework, de les contourner, de faire d'autres choses avec. Il y a une grande liberté à ce niveau-là, et c'est pour ça que je trouve au niveau de la créativité, c'est très intéressant. Donc maintenant, pour quels usages? Donc c'est là où, bon, pas tout le monde est d'accord sur ce qu'on peut faire avec Django, sur la portée à la fois sur la simplicité et sur les très très grosses applis. Donc ça a été l'occasion de discussion hier soir, très tard dans la nuit, pour essayer de déterminer quels étaient justement les avantages, par exemple face à Zop. Donc ça, après, on pourra en discuter plutôt. Moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que il est impossible d'avoir tous les avantages. C'est-à-dire que la solution miracle, elle n'existe pas. Vous allez absolument avoir besoin, enfin c'est ce qui fait toute la force du développeur, c'est que vous allez avoir besoin de faire des compromis, d'une part, et d'autre part, votre projet va être mouvant, c'est-à-dire qu'il va évoluer, et ça, il va falloir pouvoir réagir derrière. Donc même s'il commence simplement, il va falloir réagir pour aller plus loin. Donc c'est-à-dire que le projet évolue. Maintenant, la vraie question, c'est et si ça marche trop bien? Parce que est-ce que derrière, quand il va y avoir des millions d'utilisateurs, comment encaisser la charge? Et après, comment faire évoluer le produit? Donc ça, ce sera plus la conf de cet après-midi. Mais c'est une vraie problématique en termes d'usage. Donc maintenant, un mot sur la 1.0. Donc l'année dernière, à la même date, je disais que ça allait bientôt sortir. Je pense que j'ai perdu un peu en crédibilité sur le coup. Donc je vous répète que ça va bientôt sortir. Non, mais cette fois, en plus, c'est vrai. Donc là, en fait, il ne reste plus qu'à merger une branche. C'est New Forms Admin, c'est la branche qui permet d'utiliser les nouveaux types de formulaires à partir de, enfin, dans l'admin. Donc ça va occasionner pas mal de problèmes. Ils veulent sortir la 1.0 juste après. Enfin, une fois que les corrections seront faites. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à essayer. Donc il y a un sprint à côté, ils font sur Google App Engine, c'est très proche de Django, donc ça peut être une première approche. Sinon, il suffit de suivre le tutoriel, il a été traduit en français, pour ceux qui préfèrent le lire en français. Voilà, donc maintenant j'ai pas mal de temps, je crois, pour les questions. Ouais. Donc voilà, l'objectif c'était d'aller assez vite pour pouvoir répondre aux questions.
Bonjour, merci. Pour ceux qui ne connaissent ni Zop3 ni Django et qui n'étaient pas là hier soir dans les débats, est-ce qu'on peut avoir un compte-rendu synthétique et puis qui définit un peu les domaines de validité des outils de manière sincère et peut-être controversée?
Je pense qu'il veut répondre. Je sais.
Non, je vais juste donner un résumé en une phrase. En gros, c'est que quand on veut faire des choses simples, rapidement, Django est très bien. Moi, je déconseille absolument pas Django. Et pour faire des choses plus compliquées, beaucoup plus compliquées, Zop3 est à mon avis plus approprié. Mais Zop3, en réalité, pour faire des choses simples, ça va être assez compliqué. Pour faire des choses compliquées, ça ne sera pas plus difficile. Le résumé, il est là.
Donc, je suis d'accord avec cet avis. Nous, ce qu'on avait, la conclusion hier soir, c'était si vous avez par exemple une appli que votre boîte commercialise et que vous avez énormément de clients et que vous avez besoin de faire des petites retouches pour chaque client, pour ça, Zop3 semble très bien parce que vous faites évoluer le code de base et après vous adaptez pour chaque client un adapteur particulier. Maintenant, pour les applis qui sont du one shot qui après va évoluer, c'est-à-dire que vous n'avez pas quelque chose qui un produit qui évolue. Là, à ce moment-là, moi je préconiserais plutôt Django, mais en étant tout à fait objectif, bien sûr.
Notamment, ce qui peut être intéressant, c'est quand vous débutez, quand on commence on commence le développement web avec pas mal de notions de développement web objet, de modèles MVC, ce genre de choses. Le grand avantage pour Django, j'en fais pas, moi je fais du Zop3, mais l'avantage c'est que quand vous voulez vous immerger dans un monde qui est totalement différent, notamment quand vous venez du PHP, la cohérence et la cohésion de Django peut être extrêmement intéressante.
Tout à fait, je n'ai pas voulu aller trop dans les détails, mais le modèle MVC est intéressant à ce niveau-là.
Voilà, c'est pas vraiment une question parce que moi je me suis ennuyé à mourir pendant la présentation. Non, c'est aussi un truc, c'est un truc qui traînait sur un blog que je suis. C'est le blog de Stuart Langridge qui est développeur Python et qui fait du Django maintenant dans son boulot et qui est le plus heureux des développeurs web. Et qui disait qu'en fait, il se rendait compte que les gens qui faisaient du standard, des sites web standard, etc., allaient de plus en plus vers ce type de framework parce qu'il y a un outil de template qui est vraiment bien fait et qui permet d'hériter, les templates héritent d'eux-mêmes et ainsi de suite. Et donc, ça propage le standard. C'est-à-dire, à partir du moment où le template parent est standard, il y a de fortes chances pour que les enfants le soient aussi et ainsi de suite. Et donc, c'est ce genre d'approche-là qui est aussi intéressante dans le sens où les gens qui aiment les standards du web et qui veulent continuer à faire des sites accessibles et plus légers et avec un découplage entre la présentation et la structure de données, ben, ils vont vers quelque chose de plus léger aussi.
Tout à fait. Et un autre avantage dont je n'ai pas parlé, c'est qu'avec le système de template, si vous êtes une grosse équipe avec des designers et des gens qui vont juste intégrer de la CSS et qui ne connaissent rien à Python, ils ont juste à toucher au template et il y a toute la documentation des variables qui sont accessibles et des fonctions qui peuvent être appliquées sans avoir besoin de connaître le Python ni d'aller chercher tiens quelle fonction ça peut être pour afficher ça. Donc ça c'est très puissant dès que vous êtes sur une grosse équipe, que vous n'êtes pas tout seul sur votre projet, ça peut être très intéressant.
Oui, j'ai une question de débutant. Moi je voudrais savoir, mais pour faire tourner Django, typiquement la config, ça tourne sur quoi, au niveau serveur ou au niveau d'un hébergeur?
Alors ça, je n'en ai pas parlé non plus. Au niveau du développement, ce qui est bien, c'est qu'il y a un serveur web intégré, c'est-à-dire un serveur de développement. Il y a juste une ligne de commande à faire pour qu'il tourne et pour pouvoir tester les pages derrière. En plus, il recharge directement tout le code qui est modifié. Donc c'est-à-dire que dès que vous sauvez pour aller vérifier sur votre page web que ça marche, ben, ça va recharger tous les fichiers Python, donc ça va être la dernière version qui va être affichée. Et après, au niveau du déploiement, vous avez le choix sur ce que vous voulez. Il y a du mode Python, il y a du WSGI. Après, c'est une question d'architecture, ça dépend plus du tout du framework finalement. Ça tourne sur n'importe quelle architecture. Voilà.
Ma question est de savoir s'il y a ici quelqu'un qui pourrait donner un commentaire ayant l'expérience de TurboGear et Pylon.
Gawel, tu dors ? C'est plus pour avoir un feedback, c'est ça ?
Ouais, donc j'ai fait une ou deux applis en Pylons pour. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé, je faisais du ZOP 2 et je me suis intéressé au nouveau framework Python, donc Django et Pylons. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans Pylons, moi, au contraire de Django, c'est justement l'effet framework glue et de réutiliser des briques qui existaient déjà et surtout être modulaire. C'est-à-dire que si jamais une brique se casse la gueule, pouvoir la remplacer par une autre ou alors adapter en fait en fonction des besoins la brique qu'on veut quoi.
Ça je suis d'accord, je suis pas convaincu que le modèle on refait tout est vraiment bien, même si bon à l'époque eux ils disent qu'ils n'ont pas tout refait parce que la moitié des libs existantes n'existaient pas à cette époque là mais après il y a autre chose à prendre en compte, c'est que je trouve que l'échec de TurboGear 1 est assez révélateur des problématiques de cette approche. C'est-à-dire que si on ne mise pas sur les bons chevaux au départ, après on se retrouve avec des problèmes.
Quels sont les outils pour développer en Django? Des IDE ou des débuggers, des trucs qui vont bien?
C'est, pour moi, développer du Python, il faut juste un bête éditeur de texte. Donc on rejoint exactement la même chose. Après, bon, moi j'utilise TextMate. Chacun utilise l'éditeur qui lui plaît. Hein. L'intégration avec Eclipse est pas mauvaise, moi j'utilise pas ça.
Donc en fait, il n'y a pas un outil spécifique pour du Django?
Non, ça reste du code Python. Après, derrière, pour les templates, il faut un éditeur qui supporte le HTML, mais sinon ça va pas plus loin. Et il y a des extensions pour beaucoup d'outils. Par exemple, il y a une extension pour les gabarits HTML Django pour pouvoir insérer les variables plus facilement ou des choses comme ça. Bon, ben, bon appétit alors.